Y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, émission de cinéma, aujourd'hui avec au moins deux stars, deux grosses stars américaines, Ron Howard et Mel Gibson. Et toi, c'est la partie Mel Gibson, Marine, bonjour.
Oui, alors moi je vais vous parler de Tu ne tueras point, donc le fameux comeback de Mel Gibson après 10 ans d'absence en tant que réalisateur. Et alors dans un tout autre genre, hein, je vais vous parler de Maman à tort, comédie dramatique de Marc Fitoussi.
Et puis toi Manu, eh bien, c'est Ron Howard, le dernier film avec Tom Hanks.
Avec Tom Hanks, effectivement, une nouvelle adaptation de roman de Dan Brown. Et puis, je vous parlerai du client d'Ashgar Faradi.
Et puis, bah, ce sera l'occasion, hein, ce dernier film de Ron Howard, de jouer un blind test spécial. Ron Howard, forcément, il a fait plus de 30 films. Il faudra en deviner 5. Voilà, on vous fera écouter les extraits durant cette émission. Et quant à moi, eh bien, je vous parlerai eh bien, deux films qui sortent le 16 novembre. Le Petit Locataire de Nadège Loiseau, c'est une comédie avec Karine Viard. Et puis, eh bien, j'ai eu la chance de voir Les Animaux Fantastiques, le nouveau film de la saga Harry Potter.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Après une apparition en tant qu'acteur dans un blues phaser plus que moyen et une longue traversée du désert en tant que réalisateur, puisqu'il a été persona non grata à Hollywood pendant 10 ans, Mel Gibson revient très en forme avec un biopic sur l'histoire méconnue du soldat Desmond Doss qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a sauvé de nombreuses vies. Alors la particularité de ce soldat, hein, c'était qu'en tant qu'adventiste, il refusait de porter une arme et de tuer. Il était même vegan avant l'heure. Il dut donc affronter sa hiérarchie pour qu'ils acceptent de l'enrôler comme infirmier, sachant évidemment que dans ce genre de contexte, être infirmier sur un champ de bataille était tout aussi risqué que d'être soldat.
Qu'est-ce que vous foutez, capitaine ?
Nous attendons mon colonel.
Et vous attendez quoi ?
Le soldat Doss.
Mais bon sang, c'est qui ce soldat Doss ?
J'ai toujours rêvé d'être médecin, mais j'ai pas assez été à l'école. Je peux pas rester ici pendant que les autres se battent pour moi.
Tu t'imagines que cette guerre va coller avec tes principes ?
Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir.
Voici un petit cadeau du gouvernement des États-Unis. Il a été conçu pour éradiquer l'ennemi.
Désolé, sergent, je touche pas aux armes.
Vous ne tuez pas.
Non, monsieur.
Vous savez que ça peut arriver de tuer pendant une guerre.
Le soldat Doss ne croit pas à la violence. Ne comptez donc pas sur lui pour vous sauver au combat.
Pour moi, c'est pas une histoire de religion. Je crois que c'est de la lâcheté.
Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais différent des autres. Ils disent que tu risques la prison.
Comment je pourrais rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois ? Dans ce monde qui fait tout pour se détruire, ça me semble pas une si mauvaise idée de vouloir essayer de recoller un peu les morceaux.
Soldat Doss, vous êtes libre d'affronter l'enfer du champ de bataille sans aucune arme pour vous protéger.
Et c'est ce qu'il va faire. Alors la structure du film fait penser à celle de Full Metal Jacket avec deux parties bien distinctes, l'entraînement d'abord et puis la guerre. Sachant que la seconde partie est plutôt rude, rude étant un euphémisme. Hein. Je pense pas être arrangé dans la catégorie des âmes sensibles, mais alors Tu ne tueras point, c'est je pense le film de guerre le plus insoutenable que j'ai pu voir dans ma vie. Cette évolution scénaristique est plutôt bien vue puisque justement le calme de la première partie rend d'autant plus difficile à supporter la seconde. Les scènes de guerre sont mises en scène avec une crudité et une maîtrise remarquable. En véritable cinéaste de la souffrance, possédant un goût évident pour le sang et la démesure, Mel Gibson filme la guerre comme personne. Mais alors, contrairement à son style habituel, eh bien, il filme presque la guerre sans artifice ni effet esthétisant, à hauteur d'homme et de membres arrachés, ce qui donne à l'ensemble une patine ultra réaliste. Pour vous situer un peu, Il faut sauver le soldat Ryan ressemblerait presque à Camping 3 à côté. Après, j'insiste vraiment, entre le travail sur le son qui rend la séquence de guerre très immersive et les images qui sont d'une violence hallucinante, le film confine réellement à la nausée et il faut être préparé à ce que l'on va voir, mais qu'on les ressente comme saisissantes ou complaisantes. Il n'en demeure pas moins que les scènes de guerre sont d'une envergure inégalée. Alors ensuite, ce qui est un peu confus, c'est que le discours clairement antimilitariste est contrebalancé dans la dernière demi-heure par une exaltation de la guerre qui devient carrément gênante. Ralenti en cascade, contre-plongée, on se retrouve presque devant une parodie de film de guerre. Et personnellement, j'ai eu même un peu de mal à ne pas rire à certains moments. Et puis, s'il y a vraiment une chose qui est insupportable dans le film, enfin, plus insupportable en tout cas que les multiples gros plans sur les intestins en charpie, c'est vraiment la façon dont l'ennemi est montré, ennemi qui est représenté selon le point de vue des soldats américains, et ça arrange bien Mel Gibson. C'est quand même assez désastreux en 2016 d'avoir encore des films de guerre où l'on oppose les valeureux soldats américains aux méchants japonais qui sont évidemment perfides, sournois, cruels et jaunes, en plus. Et puis, second handicap du film, lors de la dernière demi-heure, le lourd fardeau de la foi chère au réalisateur asphyxie totalement le propos. Mel Gibson, qui jusque-là avait fait preuve d'une mise en scène sobre et efficace, s'embourbe totalement dans un symbolisme ultra lourd. Les allusions christiques pleuvent en pagaille et la bigoterie du propos devient vraiment envahissante. J'ai lu une critique qui utilisait un terme tout à fait approprié pour désigner cela. Il disait que Mel Gibson faisait du catoporn. Alors c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'à la fin, ça devient vraiment asphyxiant sur la dernière demi-heure du film. Mais globalement, ça reste un film très efficace. Hein. Vraiment, moi, c'est, je pense, le meilleur film de guerre que j'ai vu de ma vie.
Ah bon ?
Alors, du point de vue film de guerre, en tout cas, film de guerre, attention. Hein. Voilà, si on enlève tout le reste du propos, vraiment, en tant que film de guerre, moi, c'est le plus efficace et le plus traumatisant aussi que j'ai vu de ma vie.
On va prendre un peu plus de légèreté avec l'une des deux comédies qui sort le 16 novembre, c'est Le Petit Locataire.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Imaginez, vous avez déjà une grande fille qui vit chez vous avec son enfant, vous avez un fils qui, à l'inverse, est constamment parti parce qu'il est sous-marinier, et on vous apprend que vous êtes enceinte à 49 ans.
Vous avez quel âge ?
49 ans.
Mais quand même, ouais.
C'est peut-être une erreur, un faux positif.
Ça arrive ?
Non.
Oh putain, oh, c'est l'angoissant.
Tout va bien.
Bah non, oh, il est super grand.
Ah oui ?
Oh là là !
Ouf. Et oui, c'est le pitch très simple de ce premier film de Nadège Loiseau, qui a choisi Karine Viard pour incarner sa presque cinquantenaire qui se prénomme Nicole. Alors, ça n'est pas la plus mauvaise idée, non pas de l'appeler Nicole, mais de prendre Karine Viard. Alors, cette grossesse inattendue va être l'occasion pour toute la famille de se questionner de pourquoi pas changer. Alors, faut-il garder ou non le bébé ? La question est évidemment posée et compose en partie la trame du film. Mais il se joue autre chose. La particularité de ce scénario est de condenser les générations dans un même espace. Alors, il y a ce petit locataire en gestation dont l'existence est remise en cause. Il y a la petite fille de Nicole qu'on oublie toujours à l'école. Il y a sa fille, une éternelle adolescente qui ne s'est pas encore affranchie de ses parents. Il y a la grand-mère qui a régulièrement des absences mais qui ne manque pas une occasion de balancer quelques vérités. Et si l'on accepte le fiston qu'on ne voit jamais parce qu'il est cuistot dans un sous-marin, eh bien le seul mâle de la famille, c'est le père, incarné par un excellent Philippe Rebaud qui se glisse facilement dans un vieux survêtement de gymnastique. Alors voilà, ils vivent tous sous le même toit. Face à toutes ces agitations, lui, il est au chômage et on le sent un peu à côté de ses pompes.
Mais le père ?
Non. Mais tu vas pas me la faire à chaque fois, celle-là ? Mais tu me prends pour une pute ou quoi ?
Non, mais non.
Jean-Pierre, j'ai bien réfléchi. Elle est trop vieux pour ça.
Non, mais tu nous imagines, j'ai déjà du mal à me baisser pour ramasser mes chaussettes.
Oui, enfin, je te rassure, tu l'as jamais fait, hein. Il va quand même falloir que ça change ici. Ça fait 40 ans que tu nous fais chier avec ta gym, là. Ça fait 2 ans que t'es au chômage. C'est plus un break, c'est un renoncement.
Couper des herbes folles sur l'autoroute, ça me fait pas bander.
Ah mais on te demande pas de bander, Jean-Pierre. On te demande de travailler.
Alors tout le petit monde de Nicole va changer, et Nicole également finit d'être la chef de famille. Si elle garde le petit locataire qu'elle a en elle, il est question de souffler. On trouvera des rebondissements attendus, téléphonés, puis d'autres qui le sont un peu moins. Alors l'un des intérêts du petit locataire est d'ancrer son sujet dans une famille de prolos, mais sans tirer le trait. On n'est pas chez les Tuches, avec Maman Tuche qui serait enceinte du petit Dylan. Toutefois, cela donne l'occasion à la réalisatrice d'y aller avec les cheveux et le scooter coloré de la fille, le survêt et la moustache un peu vieux jeu du mari Jean-Pierre, et un langage un peu brut de décoffrage. Alors, s'il faut que l'un des deux ait un travail, la situation financière n'est qu'accessoire au propos, et le film ausculte davantage la famille que son milieu, et la réalisatrice fait le choix de mettre en scène la solidarité familiale. Comédie sociale, légère, rythmée, avec quelques maladresses, voire des clichés sur le genre, comme les hommes qui se retrouvent idiots devant une machine à laver. On se dit qu'il y a un moment où le cinéma devra abandonner ce genre de situation. Et puis, voilà, bon, bah, le petit locataire a quelques atouts pour faire passer un bon moment. Et ce qui ne gâche rien, eh bien, le film est porté par ses acteurs, Karine Viard, Philippe Rebaud, Hélène Vincent et tous les seconds rôles. Arrivant en même temps que les têtes de l'emploi, avec le trio Franck Dubosc, Elsa Zilberstein, François-Xavier Demaison, le petit locataire fait figure de film modeste et décalé. Mais lui, semble-t-il, avec un vrai sujet.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Da Vinci Code, alors première aventure de Robert Langdon, hein, imaginée par Dan Brown et incarnée par Tom Hanks à l'écran, alors m'avait totalement consterné. Hein. Pire, je crois même qu'il doit figurer au panthéon des plus grands nanars de luxe de l'histoire du cinéma. Alors au point d'avoir zappé la suite, Ange et Démon, hein, qui m'avait l'air assez consternante. Alors quelle mouche tsetse m'a piqué pour me retrouver un après-midi ensoleillé dans la salle de ce Inferno, troisième volet de la franchise au succès interplanétaire, voire intergalactique. Enfin, à mon avis, là, ça ne marchera pas trop, hein, vu le peu d'entrée qu'il y a eu cette première semaine. Alors le titre peut-être, hein, qui est aussi celui d'un des plus beaux films de Dario Argento, Inferno. Peut-être que sur le coup, j'ai cru me tromper. Ou l'espoir un peu mince de se retrouver devant une grosse machinerie vide neurone, mais divertissante. Parce que qu'attendre au fond de cette nouvelle adaptation du pavé de Dan Brown, alors non, que j'ai toujours trouvé si banal et incongru qu'on dirait un pseudo, Dan Brown. Enfin, c'est assez curieux comme la façon dont le prononcer. Alors, pas grand-chose, en fait, hein, pour qui connaît le parcours cinématographique de Ron Howard, hein, l'homme capable d'investir tous les genres possibles sans jamais que l'on se souvienne de quoi que ce soit et sans jamais qu'une empreinte personnelle imprime ses films. Alors, presque, ça va donner pour le blind test. Hein, le super toutou des producteurs qui réussit l'exploit de réaliser des films poids lourds de 2h30 et souvent creux comme une bulle d'air, l'ex-acteur d'Happy Days est ce qu'on appelle... Pour être poli, un yes man, un faiseur, ses titres parlent pour lui, hein. Apollo 13, Backdraft, Un homme d'exception, Légende d'automne ou le récent Au cœur de l'océan. Alors ça calme. Je dis ça, mais je sais pertinemment qu'il existe des défenseurs de ce type de réalisateur. Au moins, je n'espérais rien en rentrant dans la salle. Ce qui est finalement positif car Inferno est, contre toute attente, ben, un film plaisant et suffisamment intriguant pour maintenir en éveil grâce à un scénario à tiroir assez abracadabrant mais ludique. Alors donc, notre plus très fringant héros, hein, toujours expert en symbologie ou symbolistique, je crois que les deux sont bons.
On va l'accepter. Hein.
Oui, les deux sont bons, hein, qui arbore des airs de droupie, se réveille dans un hôpital italien, frappé d'amnésie, avec à son chevet le docteur Sienna Brooks, qui n'est pas italienne. Alors déjà, c'est un peu curieux, là. Alors il va devoir collaborer avec cette dernière pour retrouver la mémoire, d'autant qu'un certain nombre de personnes semblent être à ses trousses. Est-ce parce qu'il détiendrait au fond de son subconscient un secret capital, à moins que la vérité se trouve dans un tube qu'il a en sa possession.
J'ai trouvé ça dans la veste que je portais.
C'est un tube de transport pour produits biologiques dangereux. Vous faisiez quoi avec ça ?
Je n'en ai aucune idée.
C'est de la haute technologie. Utilisée par les autorités publiques. Il y a un système de reconnaissance d'empreintes du pouce en cas de perte ou de vol. Un tube tel que celui-ci ne peut être ouvert que par une personne bien précise.
Ouais, bah, c'est pas moi, point final.
Alors pourquoi vous
je
avez
n'en ai aucune idée.
Bon, je vais aller chercher le numéro du consulat.
Non, s'il vous plaît. Attendez.
J'ai assez attendu. C'est trop louche, tout ça. Pourquoi vous avez ce truc? D'où vous le sortez?
Il y a un moyen très simple de savoir si ce tube est à moi. Soit mon pouce l'ouvre, soit il ne l'ouvre pas.
Vous êtes fou, vous voulez ouvrir ça?
Si c'est un agent viral, il va se diffuser si j'ouvre le tube.
Non. Non, il y a forcément un manchon interne, voire même deux.
Avant que je me remette à qui que ce soit, je veux savoir ce qu'il y a dans ce truc. Et dans quoi je suis embringué. Enfin, ça tombe sous le sens, non?
Oui.
Ah, enfin, ce n'est peut-être pas que le tube, hein, ce serait plus embêtant pour donc le héros si ce que suggère l'extrait suivant s'avère établi.
Est-ce qu'on m'a fait une injection?
Quand?
À l'hôpital, avec une seringue hypodermique.
Non, tout ce qu'on vous a administré, c'était en perfusion intraveineuse.
C'était pas à l'hôpital. J'étais tout habillé, j'étais à l'arrière d'une voiture. Ça s'est passé pendant ces deux derniers jours. Et on a injecté quelque chose dans mes veines et maintenant je présente des signes de maladie. Et si j'étais...
Si vous étiez quoi?
Et si c'était moi le porteur?
Alors, quel que soit le mal qui le ronge ou les informations qu'il détient, Robert Langdon doit déjouer un gigantesque complot à l'échelle mondiale visant à éradiquer la moitié de la population. Alors, première bonne nouvelle, exit le discours étouffe chrétien plombant et le mysticisme à deux balles des précédents opus. Inferno, malgré son titre prophétique et religieux, est un thriller efficace porté par la prestation plutôt convaincante de Tom Hanks et une mise en scène alerte, évitant les temps morts inutiles. Alors, parfois on décroche à cause du jargon scientifico-théologique ou des nombreux retournements de situation invraisemblable, mais le plaisir est là, comme une aventure moderne de Tintin ou Black et Mortimer. C'est ce mélange de bande dessinée et de polar dans l'air du temps sur fond de terrorisme qui fait le charme presque désuet de ce film moins infernal que prévu. Alors par contre, aujourd'hui, ça c'est un fait établi, Omar Sy est une des grandes escroqueries inventées par le cinéma français. Il est vraiment épouvantable dans un rôle de médecin espion, il est affreux. Enfin,
c'est ce que j'ai toujours dit.
C'est vraiment, il n'a aucune expression, il a l'impression qu'il joue dans une comédie et non dans un polar.
Eh oui.
Bah, il a en tout cas été choisi par le cinéma américain.
Oui, parce qu'il est bancable. Non, voilà, ouais. C'est un des rares acteurs français bancables.
Bancal, tu veux dire.
Bancal, oui, il est très bancal aussi.
Voilà, ça nous donne l'occasion en tout cas, ce film Inferno, de jouer au blind test avec la filmographie de Ron Howard, qui n'est pas tout à fait excellente. Mais voici donc un premier film facile.
On écrit l'information sur un papyrus que l'on enroule autour d'une fiole de verre très fin, emplie de vinaigre. Si on l'ouvre en forçant, la fiole se brise, le vinaigre dissout le papyrus. Et le secret est perdu à jamais. Le seul moyen d'accéder à l'information est de composer le mot de passe au moyen de ces 5 bagues, comportant chacune 26 lettres, soit 12 millions de possibilités.
J'ai jamais rencontré de jeune fille aussi pointue en matière de cryptex.
Eh oui, et donc ça a été trouvé, Marine.
C'était Audrey Tautou là qu'on entendait,
bien sûr.
Qui parlait comme une enfant de 12 ans.
Oui.
Mais c'était Da Vinci Code.
Oui, j'ai cru que c'était les Goonies en me rappelant que c'était pas
c'était
du
pas
tout.
Lui. Non, c'est pas Ron Howard.
Ron Howard et Richard Donner.
Deuxième extrait de ce blind test.
Il faut revoir Adam Smith.
Mais de quoi est-ce que tu parles?
Si on attaque tous la blonde, on se fait tous obstruction. Et personne ne se la fait. Alors on se rabat sur ses copines. Et elle nous envoie valser parce que personne n'aime être un deuxième choix. Mais si personne n'attaque la blonde, on ne se court-circuite pas les uns les autres, on n'insulte pas les autres filles. C'est le seul moyen de gagner. Le seul pour s'en faire une chacun.
Voilà, mathématicien schizophrène, ça a été trouvé.
Un homme d'exception.
Voilà, tout à fait. La
c'est
théorie
beau,
de la blonde.
Oui, cette théorie adaptée au concept de la drague, c'est très romantique.
Et il adapte Adam Smith à la drague, effectivement. Si personne ne va vers la blonde, alors à ce moment-là, on a toutes ses copines. Eh oui.
Hey. Ouais,
vous repartez pas sans rien en écoutant Cinérama. Troisième extrait.
Après 5 courses, comment ça va pour toi?
Très bien. Sauf un léger problème avec un rat autrichien et son équipe de tricheurs italiens qui m'ont ruiné ma bagnole.
De quoi est-ce que tu parles?
Je parle du Grand Prix d'Espagne que j'ai remporté.
Ouais, au volant d'une voiture illégale.
15,9 mm trop large, tu sais bien que ça n'a aucune incidence sur la vitesse. Et tu as contesté, tes avocats ont fait pression sur les autorités, on a été obligé de tout reprendre à zéro et la voiture est devenue un monstre.
Mais un monstre réglementaire.
Ton seul recours était de tricher.
C'est toi qui as une voiture illégale et c'est moi le tricheur? C'est vraiment tragique. La loi, c'est la loi.
Certes, et un rat sera toujours un rat. Merci, salut.
Ah oui, le bel anglais avec...
Et le machin allemand?
Non, autrichien. Niki Lauda, James Hunt, ça a été trouvé. C'est la saison 76 de Formule 1.
C'était Rush, un film que j'avais surprenamment beaucoup aimé.
Eh bien, c'était effectivement plutôt excellemment bien filmé et bien rendu, parce que c'était un championnat vraiment particulier. Quatrième extrait.
L'ESSEC sera placé sous le commandement de Georges Pollard, qui descend d'une grande lignée de baleiniers. Il se trouve aussi que son père est notre affréteur.
Question de sang, monsieur Chase. Vous aurez beau avoir 1000 campagnes à votre actif, le sang aura toujours le dernier mot.
D'accord, mais ce n'est guère le sang qui remplira le navire d'huile, monsieur Mason. Pour commander, il faut se faire respecter. Et si les hommes n'ont aucun respect pour lui?
Ce sera à vous de faire en sorte qu'ils en aient.
Oh, je vous dis adieu, messieurs.
Je comprends votre déception. Alors, un 15e du produit net.
Ça fait beaucoup. Ça a été trouvé, Manu. Alors,
c'est au cœur de l'océan.
Oui, l'avant-dernier film de Ron Howard qui a été pas du tout un succès. Ça a même été un gros bide avec Chris Hemsworth et qui reprend l'histoire de Melville qui on raconte l'histoire de l'Essex qui donnera plus tard Moby Dick. Dernier extrait très facile.
Une fois qu'ils auront contourné la Lune, on allume le moteur du LEM, on produit une longue poussée, on prend le maximum d'élan et on les ramène aussi vite qu'on peut.
Jim, j'aimerais savoir ce que les mecs qui ont fabriqué le LEM en pensent.
On ne peut absolument rien garantir. Le LEM a été conçu pour se poser sur la Lune, pas pour faire des corrections de trajectoire.
Je sais bien. Mais on va pas se poser sur la Lune, malheureusement. Je me fiche de savoir pourquoi sont conçues les choses. C'est ce qu'elles peuvent faire qui compte.
Alors, ça a été effectivement trouvé parce que c'était facile.
Bah, c'était Apollo 13, évidemment.
Voilà. film plutôt apprécié par les Américains, ça c'est sûr, puisque c'est leur histoire spatiale.
Je n'en ai aucun souvenir.
Et qui a été plutôt un gros succès, je crois, de Ron Howard.
Un de ses plus gros succès, ouais. Je pense.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Et on continue avec Maman à tort de Marc Fitoussi. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de votre stage d'observation en 3e. Enfin, peut-être qu'à votre époque, on ne le faisait pas
ça
encore.
Ça n'existait pas,
voilà.
Marine.
Donc, c'était globalement une session pas très formatrice, hein, qui vous immergeait dans le monde du travail, mais sans que vous ne fassiez rien, puisque le but donc était d'observer. Et la plupart du temps, vous vous retrouviez, faute de mieux, dans l'entreprise de l'un des membres de votre famille, et vous pouviez jouer à Pokémon, première version, tranquille dans votre coin. La jeune héroïne du film, Anouk, se retrouve ainsi en stage dans la compagnie d'assurance de sa mère, et c'est surtout sa génitrice qu'elle va pouvoir observer. Émue par le sort d'une jeune femme que la compagnie refuse d'indemniser, elle mène son enquête et se rend compte que sa mère fausse volontairement les dossiers afin de faire augmenter le chiffre de sa boîte au détriment de ses clients qui se retrouvent ruinés. En plus de cela, Anouk se retrouve dans un service dont personne ne sait vraiment à quoi il sert, confrontée à des supérieurs qui ne savent pas non plus très bien ce qu'elles font là, mais qui prennent un grand plaisir à lui faire comprendre le poids de la hiérarchie.
Bonjour Anouk, tu peux venir s'il te plaît Mathilde et moi on voudrait te parler.
Tu veux peut-être commencer, Mathilde ?
Oui. Enfin, c'est comme tu veux.
Non, vas-y, je t'en prie.
Voilà. On a remarqué hier, Bénédicte et moi, que tu venais assez souvent près du massicot.
Le massicot, c'est l'appareil pour couper le papier.
Oui. Et il se trouve, comme tu as pu le constater, que c'est aussi là qu'on a placé notre calendrier de l'Avent, hein, comme tous les ans. Alors, chaque matin, quelqu'un est désigné pour ouvrir la petite fenêtre du jour et manger le chocolat qui s'y trouve.
Voilà. Et ça, c'est une tradition à laquelle on tient beaucoup.
Beaucoup. Donc c'est franchement énervant quand on y va et qu'on s'aperçoit que plein de fenêtres ont déjà été ouvertes. Alors voilà, moi je comprends que t'aimes le chocolat, hein, nous aussi, là-dessus on est raccord. Mais bon, on est le 8 décembre et moi j'ai les boules quand je vois qu'il n'y a déjà plus rien dans les fenêtres du 9, du 12, du 14 et du 17.
Du 16 aussi.
Du 16 ?
Il manque aussi le 16.
Et du 16 aussi. Bah moi franchement je les ai là.
Bon, alors évidemment, on va pas te demander de nous racheter le calendrier.
Et objectivement, on aurait pu.
Bon, alors écoute, dorénavant, si t'as une envie répressive de chocolat, bah tu vas au distributeur, tu t'achètes un Bounty, un KitKat, enfin ce que tu veux. Mais tu t'acharnes plus sur ce calendrier. D'accord ?
Maman à tort est construit comme un film initiatique qui confronte une jeune héroïne idéaliste au monde des adultes et de l'entreprise. Et comme le dit l'un des autres stagiaires, c'est même pire que le collège, c'est dire. En une semaine, Anouk va apprendre le sexisme ordinaire, le capitalisme et la déshumanisation qui en découle, tout cela en regardant sa mère travailler. Alors ce qui peut déranger dans le film, c'est qu'il oscille entre plusieurs genres, le thriller, le drame social, la comédie, le teenage movie. Ajoutez que tout cela se passe pendant les fêtes de fin d'année dans une ambiance saturée de couleurs et de lumière, et vous aurez un film qui brouille volontairement les pistes, ce qui peut être un peu gênant. Marc Fitoussi, qui a réalisé le film, donc est aussi scénariste, et cela se sent. Les personnages sont parfaitement bien cernés et bien écrits, les situations bien pensées, et la direction d'acteur est parfaite. Il faut dire que le choix de Emily Deakin pour le rôle principal, donc dans le rôle de la mère, est très judicieux, étant donné qu'elle possède une ambiguïté qui lui permet d'être aussi à l'aise dans les thrillers que dans les films plus légers. Alors heureusement, le film évite une happy end qui l'aurait rendu tout à fait détestable. Hein. Au final, le film porte sur l'âge adulte un regard très acide et très désabusé, très fataliste aussi, dont la conclusion nous fait dire que c'est finalement dès le collège qu'on apprend aux enfants à rentrer dans le moule et à faire taire leurs convictions sans jamais remettre en question le bien fondé du système en place. C'est vraiment un film intéressant, mais c'est vrai que ça peut être très déconcertant. Voilà, ça brouille vraiment les pistes et ça cumule plein de genres en même temps, mais c'est vraiment un film à voir.
Alors il y a le film Désabusé, donc celui-ci, le film français. Après on va voir le Mel Gibson pour vraiment se dire mais non mais l'humanité
pour ne plus avoir du tout
pour
l'humanité.
D'accord.
Puis on va aller vers le client aussi. Ce n'est pas plus rose non plus.
Oui. On va aller vers l'Iran avec toi Manu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Le retour d'Ashkar Faradi dans son pays natal, donc l'Iran, hein, après un bref passage en France avec le passé, ne surprendra pas les admirateurs du cinéaste. Le client marche sur les traces de son meilleur film, Une séparation, en reprenant à la fois les thématiques et la structure narrative. Il y a à nouveau question de crise d'un couple moderne, de réflexion politique sur une société étouffante et aliénante, de conflits moraux qui agitent les personnages. L'ensemble, organisé dans un récit à suspense, hein, qu'on aime ou non le film, tient littéralement le spectateur en haleine. Le film débute par la présentation d'un jeune couple, Rana et Emad, forcés de déménager de l'immeuble dans lequel ils vivent, menacés d'écroulement. La métaphore est un peu grossière pour suggérer la fissure de ces deux bobos trentenaires partageant leur temps entre leur métier et leur passion du théâtre. Alors ils répètent ensemble la pièce « Mort d'un commis voyageur ». Faradi décrit une nouvelle fois des personnages modernes affranchis de l'idéologie pesante du pays, mais leur petit monde va s'écrouler. Rana et Emad sont relogés par une de leurs connaissances du théâtre dans un appartement où vivait une prostituée. Un soir, Rana est agressée par un homme qui prend la fuite. Pensant qu'il s'agit d'un client de l'ancienne locataire, Emad mène l'enquête et s'oriente rapidement vers un suspect potentiel. Alors tout comme dans une séparation, hein, un événement indésirable a bouleversé un petit monde bien en place. Et surtout, l'obsession du personnage masculin à découvrir la vérité va le mener à sa perte et surtout le confronter avec ses propres contradictions morales. Alors lui, le petit bourgeois civilisé et réfléchi, affranchi en partie d'une éducation patriarcale et ultra rigide, va retrouver des instincts primaires et violents. Alors tout comme Nader dans une séparation qui voulait prouver son innocence jusqu'à l'absurde, au risque de tout perdre, Emad se transforme en justicier et sa soif de vengeance l'emmène vers des territoires moraux dangereux. Alors Faradi instaure insidieusement une tension palpable, hein, le talent du cinéaste n'est plus à prouver, il sait comme personne dynamiser une histoire, somme toute banale, grâce à la nervosité du montage, à une direction d'acteur toujours impeccable et un sens incroyable de la gestion des lieux. Le décor ici est utilisé de façon remarquable, hein, des escaliers en colimaçon filmés comme un lieu étouffant, à la nudité de l'appartement transitoire, à un endroit anxiogène, tout droit sorti d'une production horrifique. Mais c'est là où le bât blesse, hein, Faradi a aussi la main lourde. Sa misanthropie, ou du moins misandrie, elle est trop littérale pour être tout à fait crédible. Le client devient vite un exercice de style brillant, mais limite conceptuel et surtout démonstratif, une sorte de mécanique un peu théâtrale, hein, parfaitement huilée, dans laquelle les personnages sont condamnés dès l'ouverture. Alors le regard moral sans pitié du cinéaste peut gêner, c'est sans doute la raison de l'accueil critique très mitigé finalement, d'un film qui mérite néanmoins le détour, hein. Au final, Le Client, bon, c'est un thriller conjugal captivant malgré ses défauts et surtout propose une autre facette de ce que les néophytes imaginent à quoi ressemble un film iranien. Alors genre long, lent et chiant en fait. Hein, et non, il faut parfois réviser ses préjugés. Hein, malgré la censure, hein, la production cinématographique iranienne, fortement aidée bon, par des capitaux français, hein, elle est souvent captivante, hein, notamment dans cette manière de détourner habilement cette censure. Alors le nouveau film de Faradi n'y échappe pas. Hein, 'fin, je trouve que c'est un film quand même à voir, assez prenant. Et ce qui donnerait une autre image en fait, d'un cinéma iranien qui n'est pas seulement dû à des gens comme Kiarostami. Mmh.
Qui a disparu, en plus.
En plus.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
J'ai envie de spoiler le spin-off. Voilà une phrase qui, il y a quelques années, était inconcevable à prononcer. Maintenant, préquel, spin-off, reboot n'ont plus de secret pour les auditeurs, tant les studios américains cherchent de nouveaux débouchés cinématographiques pour leur saga. Alors, on va tout de même le répéter pour ceux qui ont perdu le fil. Les Animaux Fantastiques est un spin-off d'Harry Potter, puisqu'on raconte l'histoire d'un des personnages de la série, mais plus celle du jeune sorcier. Nous sommes en 1926 et c'est Norbert Dragonneau qui est le héros, tout en modestie, de cet opus très réussi de la série Harry Potter. Alors, choix surprenant, car d'habitude, les spin-offs mettent en lumière un personnage apprécié d'une série. Pour Star Wars, par exemple, ce serait Chewbacca ou Han Solo, mais pas le responsable de la bibliothèque des Jedi. Avec Norbert Dragonneau, eh bien, c'est un peu ça. Lié à Poudlard, il est l'auteur d'un ouvrage consulté par Harry Potter 60 ans après. Alors, la réussite de ce film s'appuie sur plusieurs éléments. Je vais faire vite. Hein. Un scénario que l'on doit à la créatrice du personnage, ce qui est plutôt pas mal. Une histoire qui convoque un monde magique et merveilleux, avec également la présence d'un Muldu attachant qui lui apporte le côté canaille et décontracté à cet univers de sorciers. On est dans un New York des années 20, peuplé d'animaux étranges. Il y a une 3D qui est plutôt bien utilisée, hein, qui réserve vraiment des petits effets de surprise. Et puis, il y a un rythme, une construction de récit et une mise en scène efficace. Résultat, à la fin, eh bien, la salle s'étonne, se réjouit, rit et applaudit, ce qui est
Non.
Pas tout le temps le cas, mais j'étais dans une avant-première publique avec une salle comble et ça a plutôt bien fonctionné. Le seul petit bémol pour moi, c'est Eddie Redmayne, l'acteur, qui est plutôt agaçant avec ses tics. Il est tout en gêne et modestie. Voilà. Bon, je trouve que c'est un peu binaire comme rôle. Et puis Catherine Waterston qui lui donne la réplique. Elle, c'est un rôle étonnant hein, parce qu'elle est très très loin de la sensualité d'Inherent Vice où elle était là en mini-jupe moitié nue. Et là, elle se retrouve dans une production Harry Potter. Ça veut dire que voilà, on peut faire tout un tas de rôles aux États-Unis actuellement.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Vous pouvez pas contrôler qui est qui, qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Ainsi s'achève Cinérama. La semaine prochaine, eh bien, ce sera La Fille de Brest en ce qui me concerne.
Et Iris de Jalil Lesper, un remake d'un film d'Hideo Nakata.
Voilà, ce sera une demi-heure de cinéma.